Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Les Français lisent sur les 12 derniers mois, selon les chiffres de 2019, la moyenne nationale afficherait même 17 livres par an par Français. Des Français qui ont également lu pendant le confinement, puisque pour plus d'un tiers d'entre nous, nous aurions passé plus de temps à lire. Alors pour nous accompagner dans cet appétit de lecture, cette émission pour nous aider également à commencer de faire nos bagages et avoir quelques idées de complicité avec ses enfants, d'évasion et de réflexion, et même de prière. Pour nous en parler, des femmes évidemment, toujours sur le haut du podium en France en matière de lecture, vive la lecture! Des livres pour l'été, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce vendredi. En général, ça sonne, ça sent bon les grandes vacances quand vous êtes autour du plateau, mesdames. Alors deux sont des habitués, mais une nous rejoint. J'espère que ça recommencera. Monique Fauché, vous êtes productrice de l'émission Parole d'auteur. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Sylvie Ostry, vous êtes en charge de la chronique Coup de cœur des jeunes. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Et Isabelle Duché, vous êtes en charge d'une chronique Famille et vous. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Merci de faire ce détour par nos studios, mais si vous êtes habitué à trouver le chemin. Allez, quelques questions sur la lecture. Je voyais Monique Fauché dandeliner de la tête, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Quand j'ai dit que les Français avaient plus lu pendant le temps de confinement, Monique, vous n'êtes pas d'accord ?
Eh bien, je vais vous avouer une chose, c'est que j'ai très peu lu pendant 2 mois.
Mais alors vous aimez être à contre-courant, parce que vous êtes à quoi en moyenne par an, non? À 30, 40?
Alors là, je dis pas, parce que c'est pas... Il y a une maison qui est envahie de livres, il y en a partout. Mais non, j'ai écrit, figurez-vous. Attention, je ne vais pas publier, je vous rassure.
De toute façon, vous ne pourriez pas vous inviter vous-même.
Non, ce serait difficile. Ou alors faire preuve de narcissisme. Mais non, j'ai très peu lu. Et j'ai remarqué que des gens qui écrivaient m'ont dit que eux n'avait pas écrit mais avait lu. Alors je me suis dit, c'est très curieux parce que vraiment, le Covid-19 a tout chamboulé.
Alors quelques chiffres quand même à propos de la lecture. 17 livres par an, c'est donc la moyenne des Français en 2019, ai-je lu ? Mais c'est une moyenne, puisque 9 Français sur 10 ont lu au moins un livre par an, et que les gros lecteurs, c'est à peu près 20 livres par an. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Je ne demanderai pas dans quelle moyenne vous situez, parce que je crois qu'il y en a qui dévorent. Isabelle, est-ce que ça vous surprend ?
20 livres par an, je trouve ça beaucoup. Ça fait presque, ben on dit non, à peu près 2 par mois finalement, si j'ai bien compté. Donc oui. Après, ce serait intéressant d'avoir les âges. Est-ce que c'est plutôt entre 25 et 55 ans qu'on lit 20 livres par an? Ce serait intéressant de voir avec vous, Sylvie, si les adolescents lisent autant.
Alors, les adolescents, autant, je ne suis pas certaine, mais lisent beaucoup. On va dire à partir du CM2, ils commencent à lire. Après, évidemment, il y a les gros lecteurs. Voilà, donc de ce point de vue-là, ils lisent.
Et puis, autre bonne nouvelle du confinement, figurez-vous, alors c'est à vérifier, c'était dans le journal de La Dépêche, c'était le 20 mai dernier. Seuls 6 Français sur 10 auraient joué aux jeux vidéo. Donc les Français auraient davantage lu que joué aux jeux vidéo. Incroyable.
En tout cas, une bonne nouvelle, c'est que les libraires à Toulouse sont plutôt satisfaits de ce déconfinement.
C'est-à-dire que les gens vont dans les librairies. Eh bien, tant mieux, parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'un autre chiffre, pour finir, laissait entendre que les libraires français ont vu leur chiffre d'affaires chuter de 67% pendant les 8 semaines de confinement. Oui. On va commencer avec vous, Sylvie Ostry, puisque chaque année, lors de cette émission, vous avez la charge de nous trouver des livres pour les plus petits. Pas que, en tout cas, on va commencer par les plus petits. Pour les moins de 5 ans, à partir de 5 ans, tout à fait. Vous voulez nous proposer donc les histoires de Taupe et Mulot d'Henri Meunier et de Benjamin Chaud. C'est paru aux éditions Helium.
Absolument. Donc, les aventures de Taupe et Mulot. Comme vous pouvez l'entendre, donc, il y a deux personnages, Taupe, qui est une taupe, Mulot, qui est un mulot. Deux petits personnages qui nous amènent dans leurs aventures, en la pêche, en faisant des gâteaux, de préférence tarte à l'asticot, c'est quand même meilleur. Voilà, c'est du grand top chef. Taupe, n'y voit rien du tout, il raffole du chocolat et il n'y voit pas très bien, pour dire pas du tout. Quant à Mulot, c'est un petit mulot joyeux, enthousiaste, toujours très inquiet pour son ami, puisqu'il n'y voit rien, il se met souvent dans des situations un peu délicates. Et malgré leurs différences, ils s'aiment beaucoup, ils partagent énormément. Donc c'est vraiment...
C'est les inséparables, comme on dit.
Les inséparables, tout à fait, sont les meilleurs amis du monde. Donc c'est parfait pour lire avec vos enfants et ou petits-enfants. C'est tout délicat, c'est bienveillant, c'est loufoque. C'est un petit bonheur de lecture avec du sourire dans la voix. C'est un régal, un régal.
Alors pourquoi ça plairait aux enfants? C'est parce qu'on a toujours un ami préféré ou chéri avec qui on vit des grandes aventures,
exactement, c'est ça? Exactement, voilà, ils partent, ils découvrent la peinture avec chacun, par exemple, leur approche. L'un est très académique et l'autre est farfelu. Mais que ce soit dans la peinture, on peut faire ce qu'on veut, enfin dans l'art. La pêche, donc l'un veut mettre des asticots, c'est quand même plus pratique pour attraper des poissons. Mais l'autre ne veut pas faire de mal aux animaux, donc il y met du chocolat. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de poissons. Donc voilà, et chacun, par leurs différences, continue d'avancer, de partager et de s'accepter. Voilà. Et ça, c'est une très jolie leçon. Donc, et tout ça au travers de Top et Mulot.
C'est une trilogie pour l'instant, si j'ai bien compris. Il y en a eu trois. Top et Mulot, Notre part de ciel, La tarte au lombric et Les beaux jours, c'est ça?
Voilà, tout à fait, Les beaux jours. Donc j'ai choisi Les beaux jours. Les images sont... Enfin, les illustrations
c'est
sont
très joli dessin,
très, très jolies.
Ouais, très élégant.
C'est vraiment un livre de... Bon, je trouve de joie, de bonheur. C'est un régal, voilà. Pour partager un moment d'été avec ses enfants... ils peuvent rêver devant les images, surtout quand vous avez Top qui réussit ravi à sortir une botte de l'étang, persuadé qu'il a attrapé un saumon, et son ami lui dit oui, c'est un magnifique saumon. Voilà,
allez, on va voter pour chaque livre. Mesdames, vous votez pour?
Ah oui,
on le garde.
Ça me rappelle un livre pour enfants qui fait le bonheur des petits. C'est assez scatologique et en général ça les fait rire. C'est l'histoire d'une Top qui n'est pas du tout contente parce que elle est dans son trou, elle surveille, et il y a des animaux qui viennent faire caca sur sa tête.
Ah oui,
et même. Alors, elle n'est vraiment pas contente. Et c'est très drôle, effectivement. Alors, évidemment, je vous dis, en plus, les enfants, là, sont morts de rire, et les dessins sont très amusants, en fait.
Bah, moi qui me suis lancé, en tout cas, j'aime pas raconter ma vie, mais dans le jardinage, je peux vous dire qu'en tout cas, les crottes, c'est les seuls remèdes contre les taupes. Ah. Avec les cheveux, voilà, par la même occasion, comme ça je passe le message.
Ça marche,
quand vos petits mettent les crottes de poule dans les trous, en effet, ça rigole bien. Alors, à partir de 10 ans, vous en avez choisi un autre.
Voilà, tout à fait.
Inventer les couleurs de Gilles Paris, j'annonce juste l'auteur et l'éditeur, édition Gallimard.
Absolument, alors j'ai trouvé cette petite pépite, Inventer les couleurs, donc, qui est vraiment flamboyant au niveau de l'illustration. Comme, alors, vous ne pouvez pas le voir puisque nous sommes en tête, mais...
Il y a des couleurs.
Voilà, il y a des couleurs.
Des
c'est
dessins.
Exactement, mmh. C'est magnifique. A priori, ça peut sembler un peu simpliste, mais en réalité, c'est un roman d'apprentissage. Ce qu'il faut, enfin, le message transmis par l'auteur, c'est que ce qu'il faut apprendre dans la vie, le plus important, c'est mettre des couleurs. On traverse des moments difficiles. La vie, c'est pas toujours amusant, mais en y mettant des couleurs, c'est acceptable et même ça la rend encore plus belle. Enfin, c'est une leçon d'espérance.
Alors racontez-nous, voilà. En l'occurrence, c'est l'histoire d'Hippolyte, si j'ai bien compris.
Voilà, tout à fait. Hippolyte a 10 ans. Donc c'est un petit garçon qui vit avec son papa dans une ville dortoir de la banlieue parisienne. Son papa travaille à l'usine.
Famille monoparentale.
Monoparentale parce que sa maman est partie avec le papa de son meilleur ami. Voilà. Donc c'est vrai que ça démarre, c'est pas évident. Lui, bah, son meilleur copain... C'est le fils du monsieur qui est parti avec sa maman. Voilà, donc là, l'autre maman est aussi toute seule. Il voit son papa qui rentre tous les soirs, qui est fortement déprimé. Et il essaye de l'accompagner, ce qui n'est pas simple. À l'école, c'est pas toujours brillant. Donc c'est vrai que c'est pas facile avec les professeurs. Et là, on se dit, bon, la lecture, on va être plombé pour tout l'été. Pas du tout, pas du tout. Donc le livre se présente comme, la description d'une journée. Ça démarre à 7h30, réveil. Il va à l'école et il raconte sa journée. Et surtout, il raconte que son copain ne sait pas mettre des couleurs dans la vie. Par contre, il en a un qui sait malgré tout raconter des histoires. Raconter des histoires, c'est l'imagination. Et l'imagination, ça permet de voyager et d'avoir autre chose que les difficultés rencontrées.
Donc c'est un petit Hippolyte qui travaille à mettre des couleurs dans la vie, c'est ça?
Complètement, c'est... complètement. Et puis il y a aussi une très très belle relation père-fils. Et donc à un moment, il y a une déclaration d'amour entre le père, enfin il parle de son papa, qui est splendide. Il raconte, je vais essayer de vous retrouver la page qui est page 26.
Pendant que vous cherchez, je dis juste un petit mot à propos de Gilles Paris. Si j'ai compris, donc... il était dans l'édition depuis 30 ans, il avait publié 5 romans et entre autres Autobiographie d'une courgette qui a donné lieu à une adaptation cinématographique. D'ailleurs, j'ai regardé la bande-annonce et ça a l'air d'être un très beau film. Ma vie de courgette.
La vie de courgette.
Voilà, c'est l'histoire d'enfants qui sont placés ou qui n'ont plus de parents et un film qui a reçu 2 Césars.
Voilà, et donc cet auteur, je vous en parlerai un tout petit peu à la fin. Dans ce passage, voilà, il explique que lui, le seul regard qui compte pour lui, c'est celui de son vrai papa, qu'il a hâte de retrouver le soir. Et tant pis pour toutes ces bières qu'il boit comme un champion son eau minérale. Et tant pis pour ses yeux sombres depuis que maman est partie avec le voisin. J'aime trop la chaleur de son torse de papa quand je me glisse dans le lit le matin pour dormir encore un peu. En vérité, je ne dors pas. J'essaie de suivre sa respiration. Son souffle dans mon cou sent fort la bière et la cigarette. Et tant pis si ça ne sent pas le lilas. C'est mon papa et je l'aime comme il est. C'est splendide. Voilà, c'est une superbe leçon d'amour.
Alors, vous voulez rajouter 2-3 mots sur Gilles Paris ?
Oui, Gilles Paris, justement, à la fin de son roman, explique... ce livre pour enfants, que c'est le premier livre illustré qu'il a pour la jeunesse. Et ce livre... Entre autres, il le dédie à tous les Peter Pan qui sommeillent en nous, à leurs charmants enfants qui découvriront que la vie peut être belle et lumineuse s'ils savent inventer des couleurs autour d'eux comme l'arc-en-ciel entre 2 orages. Et donc, pour les parents, s'ouvriront et s'épanouiront sûrement comme les fleurs gorgées d'eau. Enfin, je trouve ça fabuleux.
Inventer les couleurs, c'est donc de Gilles Paris. Et on a oublié de dire que les illustrations sont de Aline
Zalco.
Zalco. On le garde aussi, mesdames. Vous voulez me dire, vous n'avez pas à dire le contraire.
Sinon,
vous
avez plombé l'ambiance. Hein,
merci. Merci de votre indulgence.
Peter Pan, je pensais au syndrome de Peter Pan. Il paraît que le syndrome du Peter Pan atteint beaucoup d'hommes jeunes actuellement qui ne veulent pas grandir.
Ah, ça, je ne sais pas. Parce
non,
que...
Emmanuel, je ne vous regarde pas.
Non, mais on dit ça parfois des vieux célibataires, le syndrome de Peter Pan. C'est plus mon cas, mais j'ai échappé de peu. Troisième livre, cette fois, c'est donc pour les plus de... voilà que je ne m'y retrouve
14,
plus,
15 14 ans.
Ans.
À partir de 14-15 ans.
Et vous allez m'aider parce que je ne retrouve plus le titre de votre... Ah si, pardon, pour les adolescents. C'est donc Dans les forêts de Sibérie, à partir du récit de Sylvain Tesson, livre du même nom qu'a publié donc, cet aventurier qui était allé se nicher dans une cabane au bord du lac Baïkal. Ce n'est pas son dernier livre. Et là, en l'occurrence, c'est une bande dessinée dont vous allez nous parler, de Virgile Dureuil, parue aux éditions Casterman.
Absolument. Alors donc, c'est une bande dessinée assez épaisse, il y a 110 pages. Voilà. Et je peux vous assurer qu'une fois que vous l'avez terminée, vous n'avez qu'une envie, c'est le redécouvrir. Voilà, il est splendide. Les illustrations sont superbes, je n'ai que des éloges. Vous avez, comment dire, des camaillés de bleu. Vous vous retrouvez donc dans ce paysage du lac Baïkal en Sibérie de février à août 2010. Vous mourrez de froid. Pour accompagner donc Sylvain Tesson dans ce récit autobiographique, où vous vous dites au début, bon, il va passer 6 mois-là, qu'est-ce qu'il va nous raconter,
enfin, alors, il faut redire en 2 mots, qui est Sylvain Tesson et puis quelle est l'aventure qui a été la sienne.
Donc, alors, Sylvain Tesson, donc, c'est un aventurier de l'extrême, bon, un écrivain, qui a décidé de se confiner tout seul pendant 180 jours, loin de tout, à 120 km du plus proche village, loin de toute commodité. Pas de téléphone, pas de route. Le plus proche voisin est à 5 heures de marche et il s'installe là pour faire le point. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on découvre avec lui la vraie vie. S'il veut boire, s'il veut manger, il faut qu'il aille sur le lac, casser la glace. Et il y a 1 mètre de glace pour avoir de l'eau. Donc ça, tous les jours, ça occupe. Il a pris des bouquins, il lit beaucoup, il écrit et il nous fait part de toutes ses réflexions. Alors, ce n'est pas un donneur de leçons. Ses réflexions, il les pose sur le papier. C'est une réflexion sur la vie. Contempler la vie, s'asseoir, redécouvrir le monde et se redécouvrir.
Ah, c'est voilà. aussi un face-à-face avec lui-même.
Exactement. Hein. Donc, y a pas, par moments, il n'y a pas des moments faciles. Mais... Il a quelques hallucinations, puisque, donc, à un moment, il se retrouve.
Parce qu'il boit de la vodka. Hein.
Il boit un petit peu de vodka, ça l'aide. Voilà. Il se retrouve avec Tolstoï et il passe une soirée fort sympathique avec Tolstoï. Donc, c'est vrai que c'est aussi intéressant. Mais tout, comment dire, vraiment, on se dit, mais bon, ce bouquin, il va rien apporter, pas du tout. Et ça vous, comment dire, pas que ça vous déclenche, mais ça vous fait effectivement réfléchir. Parce que lui, du coup, s'éloigne de la société de consommation, qui fait partie de notre quotidien. On ne peut pas tous partir faire l'ermite quelque part, mais ça permet de réfléchir. Et je pense aussi que pour nos ados, bon, qui sortent d'un certain temps de confinement forcé, par cette approche, ça peut permettre aussi de réfléchir et se dire, là c'est une aventure. Il a eu une aventure, on va dire, physique, puisqu'il est parti à l'autre bout de la Russie, mais c'est aussi une aventure intérieure. Et on peut vivre, on va dire, sereinement, avec des hauts et des bas, parce que c'est vrai que malgré tout, Sylvain Tesson, durant ces 6 mois, a eu des hauts et des bas, mais se retrouve avec soi dans l'espace, le silence et la solitude, et se rencontrer soi-même. Voilà.
Voilà, ça c'est le dernier, on va redonner les 3 titres, et puis on peut dire que même si Sylvain Tesson boit de la vodka, ce qui est intéressant avec cet homme et avec ses ouvrages, c'est que c'est pas caricatural non plus, c'est un aventurier de l'extrême et qui vient aussi poser des vraies questions.
Absolument.
Sur nos vies.
Et un grand écrivain.
Tout à fait.
Un grand écrivain, prix Renaudot, c'est ça, cette année.
Oui, voilà, parce que donc, quand il écrit son bouquin, c'était en... Oui, mais il a eu aussi le prix Médicis Essai en 2011. Dans les forêts de Sibérie.
Oui. Oui, oui. Allez, 3 titres pour les jeunes. Donc, Topemulo, c'est donc aux éditions Helium. Ça, c'est pour les plus petits. Inventer les couleurs, c'est aux éditions Gallimard. Ça, c'est, on va dire, pour les moyens à partir de 10 ans. Et donc, pour les plus de 15 ans, pour les adolescents, dans les forêts de Sibérie, c'est donc édition Casterman, puisque c'est une BD. On va faire une première pause et puis on va retrouver nos invités pour des suggestions de romans pour les plus grands.
Présence.
Emmanuel Pella.
Des livres pour l'été, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, pour vous qui nous rejoignez peut-être autour du plateau. Elles sont de la maison et elles aiment les livres. Monique Fauché, productrice de l'émission Parole d'auteur, émission littéraire de Radio Présence, Sylvie Eustry en charge de la chronique Coup de cœur des jeunes et Isabelle Duché en charge de la chronique Famille et vous. Alors Monique, à vous la parole. Vous avez réussi à vous contenter donc de choisir deux romans. Du coup, vous allez avoir du temps pour en parler.
Mais vous savez, Emmanuel, que choisir un livre, c'est exclure les autres. Et que chaque année, vous me torturez. C'est vraiment. Alors, livres gays en plus, m'a-t-il dit. Alors là, c'est une recherche encore plus délicate. Gays et de qualité, n'en parlons pas. Les temps ne sont pas à ces productions-là. Alors,
le premier, je vais le citer juste avant de vous donner la parole.
Il ne veut pas que je continue.
Là où je chante les écrevisses, c'est de Delia Owens. Donc c'est paru en France aux éditions du Seuil. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce qui arrive à Monique Fauché ? J'allais dire une méchanceté à l'égard de certains auteurs, je ne le dirai pas. Mais vous êtes allé chercher un livre qui a un succès considérable de librairie aux États-Unis. J'ai vu, en tout cas, le bas de page, c'est une héroïne inoubliable qui a déjà conquis 4 millions de lecteurs.
C'est une amie américaine qui m'a envoyé un mail en me disant, lis ce livre. Elle me dit, je ne sais pas s'il est traduit. Alors bon, mais il était traduit. Voilà.
Alors, de quoi ça parle, Monique ?
Vous m'avez dit positif, d'abord, je vais vous dire. Parce que quand même, je vais contourner un peu la loi. Parce que j'avais pensé à notre consoeur et amie, Anne Lasserverne, qui va venir nous rejoindre dans cette radio, à Jean-François Mézil également, qui est de la région. Mais nous avons rendez-vous à la rentrée prochaine. Alors, je pense aussi à Bill Bryson. Je dis ça à nos auditeurs, pas à vous, hein, Emmanuel, parce que Bill Bryson, il écrit des récits d'aventures, de voyages extraordinaires, plein d'humour. Vous disiez positif, je vous rejoins. Hein. Bon, et puis également à Laurence Durel, le frère du biologiste Gérald Durel, celui qui a écrit, Laurence Durel a écrit Le Quatuor d'Alexandrie, un très grand bouquin. Et son frère, le biologiste Gérald Durel, a 100 fois plus d'humour que son grand frère, et prestigieux. Et il est drôle, drôle, drôle. Alors, Laurence Durel, lisez-le, mais le biologiste Gérald Durel, lisez-le.
Ah, vous
aussi.
Avez quand même réussi à nous citer plus de deux bouquins. Elle est forte, Monique. Alors maintenant, peut-on parler de là où chantent les écrevisses ?
Vous m'aviez dit des livres gays. Ben écoutez, alors, je parle de biologiste, la biologiste Gérald Durel. Et bien justement, en voilà un récent, passionnant, inattendu, d'une biologiste américaine, une personne de 71 ans. Et c'est son premier roman, comme quoi, vous voyez,
il ne
faut pas
Owens,
désespérer.
Biologiste et zoologiste.
Voilà, et qui a écrit... Là où chantent les écrevisses. Alors, si vous n'avez pas l'oreille suffisamment affinée, vous vous demanderez à quel moment chantent les écrevisses. Je crois que c'est quand même mythique. Hein. Elles ne chantent pas, finalement. Alors, ça se passe en Caroline du Nord. Vous êtes renseigné.
Un tout petit peu, mais allez-y, je vous laisse parler. Hein.
Alors, dans un endroit fait de marais, de marécages, de lagunes, de mangroves avec des arbres magnifiques, c'est grouillant de vie, d'humus, d'humidité. C'est un endroit quand même assez sinistre aussi, parce que c'est là où vont se cacher les esclaves noirs qui s'échappaient. Là où vont se cacher les gens qui n'ont plus un sou.
C'est pendant la période ségrégationniste aussi, c'est ça hein ?
Là non, hein, le
non,
livre, non, pas du
d'accord,
tout.
Bon,
pas
d'accord.
Du tout. Mais là aussi, où vont se cacher les survivants dont on parle beaucoup en ce moment. Les gens qui estiment ne devoir rien aux autres, absolument. À la société, à l'État fédéral, n'en parlons pas, et qui veulent vivre par eux-mêmes. Ils ont des armes, en général. Bon, alors, mon histoire n'est pas gaie au début, n'est pas positive.
Il y a une héroïne aussi, peut-être, non ?
Alors, qui a... oui. Ah oui, là, vous me faites brûler des étapes. Je comprends qu'il faut que j'accélère.
Allez-y.
Oui, alors, il y a beaucoup de thèmes dans ce livre. Il y a beaucoup de thèmes. Il y a d'abord celui d'une famille brisée, disloquée par un père alcoolique et violent. Une famille où le chacun pour soi devient un acte de survie. Bon, et ça, on le sait, l'alcool fait des ravages partout. C'est également l'histoire de l'abandon d'une petite fille. Et voilà l'héroïne dont vous parliez, c'est Kia. Et c'est le personnage central et... C'est un abandon impensable parce que c'est une petite fille. Alors ça, c'est peut-être le côté un peu improbable du roman, parce que cette petite fille qui, petit à petit, voit sa mère partir, tuméfiée, brisée, ses frères et sœurs, et le père, en final, va se retrouver seule. À 10 ans, elle est toute seule. À 6 ans, il n'y a plus la mère. Et on se dit, bon, comment ça va évoluer ? Alors, c'est un instinct de survie
C'est la stratégie qui rapproche l'homme de l'animal, un instinct de survie qui va faire qu'elle va survivre. Mais alors, on voit la solitude de cette enfant, à un âge où on a besoin d'un nid, où on a besoin de se développer dans la confiance. Et tout ça, alors, on voit également le poids de l'abandon, du regard des autres, parce qu'elle réussit à se cacher, elle a peur d'aller dans un centre, d'être confiée à des gens qu'elle ne connaît pas. Elle devient une sauvageonne, une enfant sauvage. Et
mais pas que, si j'ai bien compris.
Non. Non, non.
D'où le titre du livre, c'est...
Voilà. Parce que, en fait, ce qui prédomine là-dedans, c'est la nature. La nature est omniprésente, avec tout ce dont je vous ai parlé, ces lagunes, ces forêts. Cet enfant est très observatrice. Finalement, les animaux, les oiseaux en particulier, deviennent ses amis. Elle leur parle. Les coquillages, les poissons. Et tout cela fait que, surtout qu'elle fuit les hommes parce qu'elle fait partie des gens du marais. Ils sont méprisés. Et elle souffre aussi de ce mépris, de cet ostracisme. Mais finalement, cette petite fille grandit, devient donc, est indépendante, et elle est hors des conventions et hors des coutumes. Mais malgré tout, il y a une résilience, et c'est ça qui est extraordinaire dans ce livre. Cette résilience, vous avez parlé, la nature qui est là, qui est immuable, et qui est un repère pour elle. Et il y a cette résilience grâce à un jeune homme qui est un pêcheur, qui la voit par hasard et qui a entendu parler d'elle.
Ne racontez peut-être pas tout, Monique, si.
Non, mais je ne raconterai pas la fin. Mais il ne joue pas au fier à bras. Hein, c'est pas un mâle alpha. Il est respectueux, attentif, et il va lui apprendre à lire. Non, je ne raconterai pas la fin, parce que la fin est très...
Monique Fauché, qu'est-ce que cette histoire d'écrevisse qui chante, semble-t-il, s'interroge le personnage à un moment. Vous pouvez nous donner la réponse à ça ou pas? Qu'est-ce que ça signifie?
En fait, c'est une expression de la mère qu'elle explique à peine. C'est « il faut aller au plus loin de soi-même ».
J'ai lu, ça veut dire « aussi loin que tu peux dans la nature, voilà. Là où les animaux sont encore sauvages, où ils se aussi. Comportent comme de vrais animaux ».
Oui,
j'ai compris.
Oui. Alors il y a ça, et même aller au plus loin de là où on peut aller. Voilà. Et alors, l'autre résilience, c'est la lecture. Tout à l'heure, vous aviez parlé de lecture et sa passion d'apprendre grâce à ce jeune homme. Et donc, elle observe, elle se met à dessiner, elle devient une... Bon, je vais m'arrêter parce que sinon, je vais tout dévoiler.
Ouais, et puis, il faut que vous ayez le temps de parler du deuxième.
Ah là, il me met la pression.
Là où chantent les écrevisses, donc de Delia Owen, c'est paru en France au Seuil, c'est semble-t-il déjà, ça s'est bien vendu déjà, j'ai cru comprendre, plus de 30 000 exemplaires. Et en tout cas, aux États-Unis, ça tient le top pendant toute l'année 2019 des ventes aux États-Unis. Donc, chef-d'œuvre littéraire, disent certains. Ouais. Juste en deux mots, Monique, si vous y arrivez, c'est un chef-d'œuvre littéraire ou pas?
C'est passionnant. Maintenant, je vais vous dire, il y a des petits trucs de l'écriture américaine, c'est-à-dire force détail parfois inutile. Vous voyez, bon, de savoir que le personnage va manger des saucisses épicées avec de la farine de gruau, on s'en fiche un peu. Hein.
Bon, la barre est haute, hein, pour les chefs-d'œuvre, quand on a reçu 8 fois Jean d'Ormesson. Deuxième roman que vous nous conseillez, alors c'est un Toulousain, si je ne me trompe pas.
Oui.
Sylvain Houillon, c'est son premier roman, Les Jours, c'est paru aux éditions Gallimard.
Ah oui. Alors, ce n'est pas une chronique familiale, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un récit d'aventure, ce n'est pas une pièce de théâtre, ce n'est pas un essai philosophique, non, mais c'est tout ça. C'est incroyable. C'est un livre incroyable. Moi, je n'avais jamais lu de livre comme cela. Et c'est un Toulousain.
Bon. Et alors, ça vous surprend qu'un Toulousain écrive un livre incroyable?
Non, je suis fière. En fait, pour moi, c'est vrai que c'est une pépite, une grosse pépite, hein, 649 pages. Mm. Je dis à nos auditeurs, parce que quand même, lire ça pendant les vacances, quel bonheur, quelle chance ils ont. Moi, je ne vais pas le redécouvrir, c'est ça qui est dommage. Et écoutez, tant pis si vous n'avez pas lu, écoutez un parole d'auteur où il est venu ici. Alors, pour la petite histoire...
C'était récemment, du coup, Monique,
très
ou pas?
C'était juste avant le confinement.
Parce que donc, ça a été publié en mars 2019.
Voilà, et il est arrivé tout content, on se correspondait, il était au Vietnam, on correspondait par mail, puis il m'a dit « j'arrive, je vous reçois ». Puis en fait, il est arrivé 3 jours avant du Vietnam, par avion, évidemment. Je me suis dit « oh là là, j'espère qu'il n'a pas trop de virus ». Bon, mais en tout cas, très sympathique en plus.
Alors de quoi ça parle? Est-ce qu'on peut dire de quoi ça parle? J'ai cru comprendre, c'est une fresque sociétale, mais avec de multiples dimensions à l'intérieur.
C'est une saga familiale, étalée sur plusieurs générations. Et c'est imbriqué dans la petite et la grande histoire. Mais alors, c'est un travail de Romain. Alors, je pense, si mes souvenirs sont exacts, il a mis 8 à 10 ans pour l'écrire. Mais ce qu'il me dit, c'est que vivant... Alors, je ne vous ai pas dit ce qu'il faisait. Il est hydrologue à l'Institut de recherche pour le développement. Donc, il vit 6 mois au Vietnam, 6 mois en France. Et il m'a dit qu'au Vietnam, il avait le temps d'écrire.
Donc c'est une saga familiale qui débute en 1853 dans la campagne creusoise et qui se termine en 1992 place du Capitole à Toulouse, entre l'hôtel du Grand Balcon, si je comprends, et le McDonald's. Mais entre-temps, donc c'est une
entre-temps, il y a des guerres, il y a des révolutions, des évolutions sociales, économiques, culturelles. Et tout cela s'est vu raconté par des hommes, des femmes, des gens simples, très naturels, qui nous parlent de leur vie, de leurs souvenirs et de ceux de leurs ancêtres. Alors, ils monologuent, ou ils dialoguent, ou ils se complètent, ou ils parlent à l'auteur, ils se souviennent. Et alors, en fait, ce sont des membres de sa famille. Et évidemment, ceux de 1850, il ne les a pas interviewés, mais il imagine, c'est là que l'auteur intervient, et il écrit bien. Et après, il a utilisé, par exemple, un magnétophone. Il a utilisé des notes, des cartes, des photos, et il fait parler. Et c'est formidable. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire.
J'ai cru comprendre qu'en arrière-fond, je ne sais pas si c'est important, mais il y a aussi le souvenir d'une époque qui est celle, en fait, de l'Empire français, des lointaines colonies.
Alors là, moi, je me suis régalée.
Ça rajoute un peu au charme, sans vouloir être
absolument, absolument, parce qu'on voyage dans le temps. Il intervient aussi, quand même. Hein. Il va parler de l'art moderne, il va parler de la biogéologie animale, génétique. On voyage dans le temps, mais dans l'espace. Et alors, en effet, certains membres de la famille, les plus courageux, parce qu'il fallait être courageux à l'époque, les plus hardis ont osé partir à Madagascar, au Maroc, et ce n'était pas facile. Il y avait les transports. Il faut voir, hein, moi, le premier avion que j'ai pris, il s'est perdu corps et bien. Et ce n'était pas en 1930. Bon, transport, il y a le climat, il y a l'isolement, le ravitaillement compliqué, les maladies, le paludisme. Et c'était dans les petites villes de l'AOF. Ça vous dit rien, vous êtes trop jeune. C'est l'Afrique orientale, occidentale française et l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Il y a les cyclones, il y a tout ça. Et il dit que d'ailleurs, Sylvain Houillon dit qu'il a pu raconter ce climat au sens large du terme,
parce que
lui-même y a vécu, sous les tropiques.
Voilà. Je voulais parler de cette génération qui, au XXe siècle, a connu des bouleversements technologiques incroyables. Leur vie a été une suite de chocs émotionnels, écrit-il entre autres. Alors Monique, je ne sais pas si c'est une question piège, mais il paraît que ce roman est un chant d'amour aux maîtresses femmes.
Aux maîtresses femmes?
Oui.
Ah oui, 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 c'est peut-être.
Alors l'auteur rajoute quand même, je n'y ai pas pensé, hein, donc c'est peut-être une vue de journaliste.
Ben moi non plus.
Non, mais semble-t-il, il rend hommage en tout cas à certains membres de sa famille, dont certaines femmes, on va dire, autant couleurs, ai-je compris.
Oui, et alors non, justement parce qu'il utilise plusieurs genres d'écriture, de langage. Il y a le langage familier, même parfois un peu assez vert, mais aussi très soutenu. C'est très varié. Vous vous régalez, vous ne vous ennuyez pas un instant. Alors, les chapitres sont assez courts. Chaque fois, il y a une citation du chapitre. Alors, je ne vais pas vous les dire parce qu'on n'en sortirait pas. Mais on reste accroché à ça parce qu'il nous parle de l'homme et de la continuité. Et si vous voulez, il nous fait toucher du doigt notre appartenance, voyez, à la société, à cette lignée, à cette... Voilà, cette
à l'histoire, un grand H, en fait.
Exactement, voilà. Et vraiment, moi, je pourrais vous en parler parce qu'il parle de l'exode, il parle d'énormément de choses. Mais et avec des détails qui sont vrais, on sait qu'ils sont vrais. On le sait par ce qu'on a entendu raconter nous, mais par des films en noir et blanc que l'on passe même encore en ce moment. Vous voyez, il est passionnant.
Ça vous a plu aussi parce qu'on se reconnaît peut-être un petit peu dans cette histoire?
Alors voilà, on se reconnaît, on reconnaît les propos de ses parents, hein, les souvenirs. Et puis les films aussi, les documentaires que l'on peut voir. Et là, c'est du vécu, parce qu'ils donnent des détails. Parfois, les parents, les couples donnent des détails, parfois même triviaux. C'est drôle, c'est vivant, c'est animé. On ne s'ennuie pas un instant. Hein.
Eh bien, bravo Monique, en tout cas, ça donne envie de les lire. Là où chantent les écrevisses d'Elia Owens, c'est donc aux éditions du Seuil. Et l'autre livre, donc, Les Jours de Sylvain Houillon, paru aux éditions Gallimard. Alors, parmi ceux que vous avez cités au début de votre chronique, vous voulez en citer un troisième? Allez.
Ça c'est une flair. Hein.
Oui. Ah oui, alors là, je vous ai mis en appétit, hein, je sens ça. Mm. Alors, oui, moi, je vous parlerai de Laurence Durel, de Gérald Durel, le biologiste qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait un humour décapant. Il a écrit une trilogie sur la vie de sa famille sur l'île de Corfou. Sa mère devait avoir de l'argent et le père est mort. Elle a emmené tous ses enfants, toute une petite tribu, sur cette île et il raconte ça. Alors, la trilogie de Corfou, mais c'est inénarrable.
La trilogie de Corfou de...
Gérald Durel. Et là, alors oui. Là, il y a son grand frère dont il se moque parce que le grand frère... estime qu'il sera déjà, il a 20 ans, qu'il sera un grand écrivain. D'ailleurs, c'est vrai qu'il est devenu... Mais il est assez infatué de sa personne. Hein. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup, Monique Fauché. On va faire une deuxième pause et puis on va retrouver quelques pistes de lecture spirituelles, en tout cas plus explicitement spirituelles, en fin d'émission. Allez, on va donner les titres en teasing, Isabelle Duché.
Alors, le premier, c'est un livre de Bernadette Chauvelon qui s'appelle « Élisabeth et Félix le sœur, itinéraire spirituel d'un couple voilà. » aux éditions Arthège. Et le deuxième, un livre tout récemment publié qui s'appelle « Libérer, relever, comprendre comment Dieu nous sauve ». C'est chez MAM et c'est écrit par le frère Olivier de Saint-Martin et Natalia Trouillet.
Olivier de Saint-Martin qui était jusqu'à il y a peu le prieur des Dominicains à Toulouse et qui réside toujours dans ce couvent, sauf erreur de ma part. Allez, on fait une pause et puis on vous retrouve.
Emmanuel Pella.
Des livres pour l'été, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce vendredi, puisque l'été arrive, et bien on prend de l'avance avec trois dames en plateau, nos trois dames littérature, Monique Fauché, en tout cas du jour, productrice de l'émission Parole d'auteur, Sylvie Ostry, en charge de la chronique Coup de cœur des jeunes, et Isabelle Duché, en charge de la chronique Famille et vous. Alors cette chronique Famille et vous, c'est pas forcément une chronique livre, mais ça vous arrive de citer des livres, Isabelle.
Oh oui.
Et alors vous avez accepté au débeauté, merci beaucoup de nous parler, de nous donner quelques pistes de lecture plus explicitement spirituelles. Le premier livre, et j'en suis très heureux, donc Élisabeth et Félix le sœur, itinéraire spirituel d'un couple, c'est paru aux éditions Arthège. Très belle histoire de ce couple. Dites-nous peut-être pour commencer qui était Élisabeth et Félix le sœur.
Alors, Élisabeth et Félix le sœur, c'est un ménage qui a vécu entre les années 1890 et 1920. Elle est morte assez jeune, en 1914. Un couple qui était tout à fait dans son temps. Ils étaient parisiens, ils avaient une vie mondaine très, très riche. Ils étaient très cultivés, ils lisaient beaucoup, ils allaient à beaucoup d'expositions, ils partageaient un amour de la musique très dense. Et puis, ils avaient quand même cet anachronisme où, en fait, dans leur couple, bien que faisant partie tous les deux de familles catholiques, en fait, lui était un anticlérical vraiment virulent et elle était une chrétienne très, enfin, avec la prière vraiment ancrée dans son quotidien. Elle avait une foi très profonde. Et en fait, ce livre raconte ce profond amour de ce couple, hein, vraiment une tendresse très forte de l'un pour l'autre. Et à côté de ça, une foi qu'ils ne partagent absolument pas. Et c'est très étonnant de voir comment Félix, donc le mari, peut essayer de faire changer d'avis sa femme et de lui faire abandonner sa foi, et de voir à côté de ça sa femme qui tient sa foi, mais pas comme si elle s'agrippait à une bouée de sauvetage, mais vraiment comme quelque chose qui est ancré en elle. Et elle, finalement, elle va se servir de cette foi comme d'un témoignage. Elle ne va pas être là pour convertir à la force du poignet son mari, mais elle est vraiment là pour être un témoin du Christ dans son époque.
On peut en dire un tout petit peu plus aussi sur lui. Donc lui avait fait des études de médecine. Il était journaliste pour La République fondée par Gambetta et après pour le journal Le Siècle, responsable des questions coloniales. D'ailleurs, ça fait un tout petit peu écho à un autre livre. Puis c'était aussi une époque particulière. C'était une époque où, on va dire, l'étude historico-critique aussi des évangiles se faisait de plus en plus du jour. Donc même dans l'Église, le travail de la raison, on va dire, était à l'œuvre. Alors, il n'a pas réussi, je ne sais pas si on peut déflorer toute l'histoire, mais on peut dire aussi qu'il y a dans l'histoire des époux Le Sœur, et je crois que ce livre s'en inspire, l'itinéraire intérieur de cette femme dans son carnet personnel, je ne sais pas comment on peut dire, que son mari découvre lorsque celle-ci décède.
C'est exactement ça. En fait, elle n'avait personne à qui se confier. Elle était très seule. Et donc, elle a écrit quasiment quotidiennement ses réflexions, ses questionnements. Elle a eu, un peu vers la fin de sa vie, des très beaux échanges épistolaires avec notamment une religieuse. Et puis, elle avait quand même son confesseur. Donc, ces personnes l'ont aidée à cheminer dans la foi. Et puis, elle a écrit quelques années avant sa mort, parce qu'elle se savait condamnée. Elle a écrit un testament spirituel à l'attention de son mari. Et son mari, effectivement, a ouvert ce document une fois que sa femme était morte. Et ça l'a littéralement bouleversée, je dirais même retournée. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, on ne va pas raconter la fin de l'histoire parce que voilà, c'est la suite logique de ce retournement. Mais finalement, elle a œuvré en cachette, elle a prié, elle a offert toutes ses souffrances pour la conversion de son mari. On peut dire qu'elle y est parvenue, mais c'était non sans difficulté et sans souffrance.
Là, j'ai lu aussi dans un des articles, je crois que c'était dans Aletheia, mais je suis pas sûr que voilà, cet homme qui sentait la présence de sa femme donc à son décès. Et puis ça a été un best-seller. Ça j'ai découvert ses écrits, puisque ça a été tiré à 140 000 exemplaires et traduit 8 fois. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter à cette chronique? Peut-être une chose, enfin qu'on a compris entre les lignes, mais il y a beaucoup plus de couples qu'on l'imagine en fait qui vivent ce type de réalité. Et en fait, on trouve peu de littérature là-dessus.
Oui, c'est vrai. C'est pour ça que ce livre m'a plu, parce que c'est une histoire conjugale qui, on pourrait se dire, ça part pas très bien, parce qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde. Et puis à côté de ça, leur passion pour la culture les rassemble. Voilà, ils ont un amour qui est plus fort que cette différence de foi.
Mais pardon, Isabelle, oui. lui essaie de la détourner.
Oui,
à un
moment,
c'est étonnant.
À un moment, il essaye, parce qu'il est vraiment un anticléricalien virulent. Il est dans cet environnement politique, journalistique, qui bouffe du curé, hein, excusez-moi de l'expression. Oui, oui. Et donc, il veut détourner sa femme parce qu'il trouve que, franchement, elle fait un peu bigote. Voilà, ça m'énerve. Mais à côté de ça, sa femme, justement, elle ne fait pas bigote. Parce qu'elle brille, parce qu'elle est ravissante, parce qu'elle fait attention d'être toujours séduisante pour son mari, pour lui faire honneur. Et puis, elle a une conversation qui est très riche, elle est intelligente, elle apprend des langues étrangères, elle a une conversation qui est qui est toujours à propos. Et à chaque fois, il y a des dîners qui sont organisés, des dîners somptueux qui sont organisés dans leur appartement. Et à chaque fois, elle reçoit avec beaucoup, beaucoup d'attention.
Une femme moderne, sous bien des aspects.
Oui, elle est vraiment moderne. Et on a, voilà, ça nous change un peu de cette idée d'une, d'une femme qui pourrait être un peu recluse à dire son chapelet dans son coin.
Un peu grenouille de bénitier.
De prime abord, ce qui me choquerait, c'est ce manque de respect de la part du mari. Quand il y a un amour partagé, on pourrait respecter la foi chacun. Enfin, c'est ce qu'on observe, d'ailleurs.
Il l'a beaucoup raillé, il s'est beaucoup moqué. De temps en temps, pendant les dîners, il envoyait des pics pour la faire réagir. Mais elle, justement, ça c'est une de ses grandes forces, c'est qu'elle ne réagissait pas avec virulence, elle restait toujours très discrète. Ouais. Et d'ailleurs, à un moment, comme il lisait beaucoup, il s'échangeait des livres, il s'est dit, tiens, mais je vais lui faire lire ce livre. C'est un livre de Renan, si je retrouve le titre, je ne sais plus. La vie de Jésus.
La vie de Jésus.
Et en fait, elle a décousu ce livre et elle a cherché tous les arguments. Et en fait, c'est ça qui a accéléré sa propre conversion. Donc, il s'est fait prendre à son propre piège.
On peut citer un passage de son... c'est quoi? C'est un carnet intime ou c'est...
Oui, elle a écrit...
Carnet intime. Mon Félix bien-aimé, achève ta vie durant d'acquitter la dette immense que j'ai envers le Père adoré, que là-haut mes prières t'obtiendront de connaître et d'aimer. Lorsque toi aussi tu seras devenu son enfant, consacre ton existence au don de toi-même dans la charité. Sois chrétien et apôtre.
Voilà.
Et vous verrez la fin de l'histoire. Cette femme a été plus qu'exaucée.
Ouais. Ça, c'était cette lettre que vous avez citée, c'était le testament spirituel qu'elle avait écrit spécialement pour son mari et persuadée qu'il se convertirait.
Autre livre, pas du tout dans le même genre, donc c'est Libéré, relevé. C'est donc un livre de conversation entre Natalia Trouillet, qui est donc une célèbre blogueuse et journaliste, on va dire, du milieu chrétien, avec le frère Olivier de Saint-Martin, qui est donc dominicain et qui est à Toulouse, que nos auditeurs connaissent. Allez, je vous laisse présenter cet ouvrage et cette conversation.
Alors, en fait, Natalia Trouillet pose des questions sur le pardon, comment Dieu nous aime, la miséricorde, le péché. Elle a des questions qui sont assez... assez franche, assez provocante parfois. C'est un livre qui est où ça rebondit. On n'est pas dans un traité théologique ennuyeux. On peut prendre un petit chapitre par-ci par-là. Donc c'est un livre qui se lit très facilement. Alors les genres de questions, c'est si Dieu nous aime tant, pourquoi le mal? Pourquoi malgré les sacrements qu'on reçoit, les hommes, pourquoi faisons-nous encore des péchés? Est-ce qu'on peut tout pardonner? Est-ce que c'est possible de pardonner quand l'autre ne nous demande pas pardon? Et puis, est-ce qu'il y a un péché qui n'est pas pardonnable? D'où vient le péché originel, etc. Donc, vous voyez, plein de questions. À la fin, des petites explications pour se confesser, mais en fait, c'est pas tellement...
Il y a des réponses?
Ah oui, il y a des réponses, bien sûr, heureusement. Mais en fait, c'est vrai qu'avec ce titre...
La réponse d'Olivier de Saint-Martin, je dis pas qu'il a réponse à tout, mais c'est quand même un dominicain.
Oui, et en fait, c'est bien expliqué, et en fait, c'est très accessible, parce qu'il y a des exemples, il y a des citations, il y a des témoignages de pardon qui ont été donnés.
Juste, excusez-moi, je me permets de rebondir sur ce qu'a dit Monique Fauché, c'est qu'Olivier de Saint-Martin aussi, au début et à plusieurs reprises dans ce livre, ce dont je me souviens, pour l'avoir parcouru, c'est qu'il laisse entendre qu'il n'a pas réponse à tout.
Exactement, notamment sur la question du mal.
Ah oui, ouais. C'est ça.
Et alors, il fait, puisque vous parlez de lui, il fait quand même référence à son expérience de missionnaire de la miséricorde. Vous savez, pendant l'année de la miséricorde, le pape François a nommé un certain nombre de prêtres.
Donc c'était une année qui avait été déclarée par le pape François pour toute l'Église universelle. C'était 2015 de mémoire, bref. En tout cas, il y avait certains prêtres qui avaient une mission particulière à Villette Saint-Martin.
Pour donner le pardon de certains péchés. Voilà, notamment celui de l'avortement. Et donc, il parle un petit peu de cette expérience. Mais surtout, moi, ce qui m'a intéressée, c'est qu'en fait, il parle du péché, de la faute qu'on fait, comme un véritable tremplin pour nous remettre dans le chemin. En fait, on est sur un chemin, c'est le chemin que Dieu nous propose. Et puis, on fait un péché. Et plutôt que de se faire gronder et d'avoir Dieu, on demande pardon, Dieu nous pardonne, et puis tant bien que mal, il nous remet sur le chemin. En fait, là, Dieu vient nous pardonner dans le chemin de traverse que nous avons pris, et puis, il rebranche le GPS, là, il reprogramme et on repart à partir de ce chemin. Donc à chaque fois...
Un chemin de miséricorde aussi.
Un chemin de miséricorde. Donc à chaque fois, notre faute est l'occasion, quand on reçoit le pardon, de prendre un nouveau départ.
Et d'un plus grand amour.
Et d'un plus grand amour, évidemment.
Et ben voilà, tout est dit ou presque. On peut redonner donc le titre des deux ouvrages. Je reciterai peut-être pas tous ceux de l'émission, quoique, allez, on va essayer. Pour vous, donc Isabelle Duché, Elisabeth et Félix Le Sœur, Itinéraire spirituel d'un couple, paru aux éditions Artege. Je vous laisse citer le deuxième.
Le deuxième s'intitule « Libérer, relever, comprendre comment Dieu nous sauve » du frère Olivier de Saint-Martin et de Natalia Trouillet aux éditions MAM.
Monique Fauché, est-ce que je peux vous demander, au risque de paraître scolaire, de redonner le titre de vos deux ouvrages, puisque vous les
Mais
avez sous
grand,
la main?
Avec grand plaisir. Alors, « Les jours » de Sylvain Houillon, édité par Gallimard, pour un premier ouvrage, hein, je vous le dis, je ne l'avais pas dit ça peut-être. Et « Là où chantent les écrevisses » de Delia Owens, édité par Le Seuil.
Et même exercice, Sylvie Austré.
Alors, Top et Mulot, Les Beaux Jours de Henri Meunier, illustration Benjamin Chaude.
Aux éditions
Hélium. Ensuite, Inventer les couleurs de Gilles Paris avec les dessins d'Aline Zalco, Gallimard Jeunesse, Giboulet. Et pour terminer, celui que je vous envie de découvrir.
Pour les adolescents,
de Virgile Dureuil, qui est l'illustrateur dans les forêts de Sibérie, d'après le récit de Sylvain Tesson, aux éditions Casterman.
Eh ben merci beaucoup mesdames d'être venues pour ce rendez-vous lecture. Un grand merci à vous pour toutes vos lectures et tout le travail que vous avez fourni. Pour moi, c'est du gâteau. On peut dire, pour finir cette émission, sans vouloir se mettre personne à dos, allez acheter vos livres chez les libraires et les petits libraires, les vrais gens qui existent encore.
Et il y en a beaucoup à Toulouse.
Coupez votre internet le jour où vous avez envie d'acheter des livres. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.